savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Marcello, come here. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Bienvenue dans tous les cinémas du monde avec une affiche, chers auditeurs, particulièrement riche cette semaine. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Dans 20 minutes, nous recevrons nos deux invités, Joël Carrechesi, le réalisateur de La Miséricorde de la Jungle, étalon d'or au FESPACO, et son acteur Stéphane Bach. Avant, nous parlerons d'un petit polar espagnol que vous avez adoré, Sophie, El Reino, d'un documentaire sur Frantz Fanon, psychiatre et grande figure de la pensée anticoloniale. Nous parlerons aussi d'une série controversée en Inde et du renouveau du cinéma au Botswana.
La sélection comporte des films qui sont soit directement politiques, soit de manière plus indirecte, mais clairement, on peut faire du cinéma d'auteur, on peut faire un cinéma de création avec des grands sujets.
Ça y est, on a enfin le menu des réjouissances du Festival de Cannes qui s'ouvrira, Sophie, le 14 mai prochain. Le délégué général Thierry Frémaux a dévoilé ce jeudi sa programmation.
Oui, il y a du beau monde. Pedro Almodovar décrochera-t-il enfin une palme d'or avec son nouveau film autobiographique déjà sorti en Espagne, Douleur et gloire.
Cuéntame, Salvador.
Insomnio.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo.
Voilà, Douleur et gloire de Pedro Almodovar qui sortira en salle le même jour que sa présentation en compétition à Cannes. Antonio Banderas y joue un réalisateur mélancolique, vraiment véritablement le double, presque le double physique du cinéaste phare de la Movida.
Et il paraît que ça cartonne en Espagne, où le film est déjà sorti, vous le disiez, Sophie.
Autre habitué à revenir sur la croisette avec un film également en salle en simultané, Les Frères Dardenne avec le jeune Ahmed, un film sur la radicalisation d'un adolescent. Parmi les grands noms, bien Ken Loach, Terrence Malick, Marco Bellocchio, Arnaud Desplechin, Xavier Dolan, qui revient avec Mathias et Maxime 3 ans après avoir remporté le Grand Prix pour Juste la fin du monde.
Voilà, que des hommes pour le moment, mais il se dit que 2019 sera l'une des éditions les plus féministes de l'histoire du festival. Bon, c'était pas très difficile.
Voilà, ex aequo quand même avec 2011. Au total, 13 femmes présentes dans l'ensemble de la sélection, alors pour le moment, composée d'une cinquantaine de films. Pour la compétition, 4 réalisatrices. Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu avec Adèle Haenel. Justine Triet pour Sibyl avec Virginie Efira. L'Autrichienne Jessica Hausner pour Little Joe.
Et enfin une cinéaste franco-sénégalaise.
Mati Diop, la nièce de Djibril Diop Mambéty, qui présentera à Cannes son premier long métrage de fiction Atlantique sur des ouvriers aspirant à l'exil.
Et hors compétition, Sophie, il y aura aussi du beau monde.
Eh bien, on attend sur les marches Diego Maradona et puis Elton John, le premier pour un documentaire qui lui est consacré, le deuxième pour le biopic Rocketman réalisé par le Britannique Dexter Fletcher.
J'entendais la mélodie dans ma tête. Tout était là, je voyais toutes les notes et il fallait que ça sorte.
It's a little bit funny, this feeling inside.
C'est quoi ton nom déjà ?
Je m'appelle...
Reggie ! Voilà, Elton John sera-t-il en concert en haut des marches ? En tout cas, on attend, je suis sûre que ça va déclencher la folie, la frénésie. Et puis, alors, 53 ans après Un homme et une femme, Palme d'Or 66, Claude Lelouch projettera la suite, donc hors compétition, avec les mêmes acteurs, Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé. Donc, le film s'intitule... Plus belles années. Et puis, un monstre sacré sera célébré sur la scène du Grand Théâtre Lumière.
Ah non, madame. Non, non, je regrette. Je ne suis pas votre monsieur Klein.
Voilà, vous avez sans doute reconnu la voix d'Alain Delon qui va recevoir une palme d'or d'honneur bien méritée après plus de 80 films dont nombre de chefs-d'œuvre. Bon, j'en cite que deux, mais Le Guépard de Visconti et Monsieur Klein de Joseph Losey, entre autres.
Thank you.
As-tu dansé la carioca?
Non.
Gérard Darmon et Alain Chabat ne danseront peut-être pas la carioca sur la scène du Palais des Festivals.
Ça avait été réclamé sur Twitter par un nombre affolant de fans du film Des Nuls, c'est la cité de la peur. Mais pour les 25 ans de cette énorme comédie dont l'action se déroule pendant un festival de Cannes, eh bien la copie sera projetée au festivalier en version restaurée.
Tous les cinémas du monde.
On part en Russie où le dernier film de Pavel Lunguine provoque la colère des anciens combattants russes. Il accuse de donner une image assez peu reluisante du retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan.
Oui, alors le film s'intitule Fraternité, Bratstvo en russe. Alors sortira-t-il en salle comme prévu le 10 mai ? Rien n'est moins sûr car effectivement une association de vétérans comptant 100 000 membres demande le retrait de la licence d'exploitation du film distribué par Disney.
Allez. Attention.
This is yours. Most important thing, keep your finger off the trigger at all times, unless you need to shoot somebody. When that happens.
3170, we're being held up.
Alors dans ce film, Fraternité, Bratstvo, Pavel Lunguine dresse le portrait d'un groupe de militaires pris dans l'engrenage des derniers mois de la guerre menée par l'URSS en Afghanistan, donc on est vers 1989. Cette guerre avait duré 10 ans et a fait officiellement plus de 14 000 morts du côté de l'armée soviétique. Le réalisateur y montre des soldats ivres, se livrant au pillage, donc des scènes vraiment peu conformes, on va le dire, et c'est un euphémisme, peu conforme à l'ère du temps en Russie. Pavel Lunguine craint, lui, une censure venue d'en bas, du peuple, dans un pays en ce moment marqué par le retour à des valeurs conservatrices et l'exaltation du patriotisme le plus primaire.
Au Botswana, des cinéastes et des producteurs s'attachent à valoriser leur culture, par exemple, entre autres, la société Botswood et ses productions locales calquées sur le modèle de Nollywood au Nigeria. Donc depuis quelques années, ces films qui sont tournés justement façon Nollywood en 10 jours, avec des tout petits moyens, connaissent un succès grandissant. C'est un reportage de notre correspondante à Johannesburg, Tandy Wekati.
Dans cet épisode de la série Beauty, deux femmes survoltées se chamaillent quand l'une d'entre elles s'enfuit en hurlant une casserole dissimulée sous son tablier. Pendant près d'une heure, les scènes comiques vont s'enchaîner pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, comme Bassadi, 32 ans, friand d'histoires légères, mais aussi sensible de voir enfin le quotidien de ses concitoyens.
Après une journée de travail bien chargée, je peux enfin me relaxer, profiter et surtout rigoler. Je suis heureuse que la série soit dans ma langue, le Setswana. On ne perd pas le sens des blagues, contrairement avec les traductions. Pour moi, le Botswood incarne notre culture, nos réalités.
C'est ici, dans les bureaux de Botswood, à Gaborone, la capitale, que Fini Lekolwane a créé Beauty, qui est sous-titré en anglais. Productrice et scénariste, la jeune femme explique son clin d'œil au film de Nollywood, teinté d'humour et très populaire.
En Afrique, nous nous identifions plus à Nollywood qu'à Hollywood. Mes films racontent les mêmes histoires, mais à notre sauce. Ici, plus personne n'a envie d'entendre un récit sur le HIV ou le sida. Nous connaissons le problème, nous savons comment faire face à l'infection. Tout ce que nous voulons, c'est rire. Si tu fais une série éducative, peu de gens vont la regarder. Mais si tu proposes une histoire où on ne se prend pas la tête, là tu vas faire beaucoup d'audience.
Depuis l'année 2014, Botswood produit également deux autres séries télévisées diffusées une fois par mois sur la chaîne nationale. Chanda Phillips est une actrice récurrente, elle se réjouit de cet engouement.
Le succès de Botswood veut dire succès pour les acteurs et pour l'ensemble des gens de la production qui se démènent et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour nous permettre d'aller plus loin et de pénétrer le marché. On nous offre même les formations pour nous améliorer et donc livrer la meilleure performance possible.
Par le passé, Fini Lekolwane a commencé par distribuer ses films en DVD dans les supermarchés. Aujourd'hui, c'est plus de 2000 copies qui sont vendues chaque mois dans 50 points de vente du pays. Face à une industrie cinématographique en berne, elle mesure sa chance.
Lorsque tu dis film, la première chose à laquelle tu penses, c'est finance. Nous n'avons même pas de fonds ou de commissions pour les films, il n'y a rien de tout ça. En plus, ici, les gens ne font pas la différence entre films de cinéma et séries télévisées. Pour nous, c'est la même chose. Tu dois vraiment être un battant pour survivre. Et si tu as réussi, tu dois t'assurer d'avoir un autre business. En dépit de la situation, pour ceux qui se battent, pour ceux qui sont prêts à travailler dur, il y aura quand même toujours des opportunités à saisir.
Avec ses productions diffusées depuis peu sur une chaîne câblée sud-africaine, Botswood, créée il y a 15 ans, entend bien pénétrer le marché africain et international. Tandy Wekatier, Gaborone, RFI.
Inde. Une série fait controverse 7 ans après le viol et le meurtre d'une jeune femme de 23 ans dans un bus par 6 individus. La mini-série Netflix, Delhi Crime, revient sur ce fait divers qui a bouleversé le pays. Le réalisateur canadien d'origine indienne, Richie Mehta, retrace en 7 épisodes l'enquête qui a permis l'arrestation des auteurs de ce crime sordide. Antoine Guinard, vous êtes notre correspondant à Delhi. Est-ce que cette série qui est sortie le 22 mars en Inde relate de manière convaincante, fidèle, ce fait divers ?
Oui, la série tournée à Delhi dans plusieurs lieux où s'est déroulée l'enquête et le procès des 6 accusés est très bien réalisée. C'est même assez glaçant pour quiconque avait couvert ou suivi de près la couverture médiatique de cette affaire qui reste fraîche dans les esprits des Indiens et en particulier des habitants de Delhi. L'actrice Shefali Shah interprète parfaitement le rôle principal de l'inspectrice en charge de l'enquête après l'agression brutale de cette étudiante qui avait succombé à ses blessures fin décembre 2012. Le réalisateur Richie Mehta a réussi à montrer une réalité en particulier, le manque de moyens de la police de Delhi au quotidien. Les policiers faisaient de surcroît face à une pression énorme engendrée par l'indignation sans précédent provoquée par ce crime. On peut dire que la série a bien su capter l'atmosphère tendue et révoltée qui régnait à Delhi à l'époque.
Apparemment, la série, Antoine, a été très critiquée pour avoir donné le beau rôle à la police de Delhi.
Oui, et on peut comprendre ces critiques. Le réalisateur a fait le choix de souligner, comme je vous le disais, les conditions de travail difficiles des policiers de Delhi, qui sont à peine 80 000 pour une ville de plus de 20 millions d'habitants, même si tous les policiers du film ne sont pas mis en valeur. Mais certains faits indéniables, qui noircissent le tableau pour les forces de l'ordre, sont totalement déformés dans Delhi Crimes. Par exemple, le fait qu'un homme qui s'était fait agresser par les mêmes individus dans le même bus où a été agressée l'étudiante, seulement quelques heures avant, était allé porter plainte immédiatement et les policiers l'avaient envoyé balader. Cela n'apparaît pas dans la série. Dans Delhi Crimes, le petit ami de la victime présent lors de l'agression et qui avait lui aussi été passé à tabac est également dépeint comme un lâche qui aurait faim de s'évanouir, une attaque assez malvenue, surtout quand on sait qu'en réalité il avait eu plusieurs côtes cassées et qu'il est avant tout une victime dans cette affaire. Enfin, la police était bel et bien sous pression, mais cette pression n'émanait pas, comme le laisse entendre Richie Mehta, d'une machination médiatique ou politique, mais bien d'un sentiment populaire qui a poussé spontanément des centaines de milliers de gens dans les rues.
C'est un reportage de notre correspondant à New Delhi, Antoine Guinard. 18 films en salle ce mercredi, voilà, c'est la vitesse de croisière du cinéma français. Alors dans cette masse, nous avons dû faire des choix draconiens, et en particulier celui-ci.
On retrouve à la fois cette colère que l'on sent maintenant partout, et on retrouve aussi cette exigence de lucidité et de vérité, regarde, concernant la bourgeoisie africaine, les bourgeoisies nationales.
Quand je lui explique le sujet de ma thèse, sa réaction nette, aucun intérêt.
Il te parle de la violence, en fait, salvatrice, la violence pour le colonisé, qui se trouve face à la violence du système colonial.
La vie et l'œuvre de Frantz Fanon racontée dans un documentaire, ça s'appelle Fanon, hier et aujourd'hui. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler avec son réalisateur Hassan Mezin. Mais je vous recommande voilà vivement ce film qui met à plat le parcours de cet homme brillant psychiatre, engagé, volontaire pendant la Deuxième Guerre mondiale auprès des forces françaises libres, militant pour l'indépendance de l'Algérie. Donc ce natif de Martinique était tout cela à la fois et surtout, bien sûr, avant tout et surtout une tête pensante de la lutte anticoloniale, l'auteur de 2 ouvrages qui sont aujourd'hui devenus des classiques, Peau noire, masque blanc et Les damnés de la terre, publié en 61, quelques semaines avant sa mort.
Ce livre va être un peu un testament dans lequel il va montrer un peu les craintes des contre-révolutions à venir dans une Afrique où des pays sont nouvellement indépendants, comme la Tunisie, le Maroc ou des pays d'Afrique de l'Ouest, où on voit déjà se mettre en place des mécanismes de néocolonialisme ou ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique. Et vraiment sa naissance et ses mécanismes. Et donc, lui va mettre en garde beaucoup sur les risques à venir si on sortait du lit des révolutions.
Donc, Frantz Fanon, un homme exceptionnel que Césaire avait surnommé le guerrier de Silex. Oui, Hassan Mezin dresse un portrait sensible de cet homme à travers les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé. On l'entendait dans la bande-annonce du film. Il s'interroge aussi sur l'héritage de ce grand penseur qui a analysé le colonialisme en clinicien.
Et dont l'esprit flotte aujourd'hui encore sur les manifestations en Algérie. J'espère qu'on aura très bientôt l'occasion de consacrer une plus grande émission sur ce thème.
Alors vous, Sophie, parmi toutes les sorties de la semaine, vous avez sélectionné pour nous un film espagnol, plusieurs fois récompensé. penser au Goya, donc les Césars espagnols, et qui vient de décrocher le prix de la critique au festival du film policier de Bonn.
Il s'agit d'El Reino, le royaume, un thriller politique du trentenaire Rodrigo Sorogoyen. Pendant plus de deux heures menées tambour battant, on va suivre l'itinéraire d'un responsable politique du sud de l'Espagne accusé de corruption.
Que mi nombre ya ha salido en los papeles y yo aquí estoy jugándome el puto retrato.
Tranquilo, ¿no?
¿Por qué entraste ya en política?
Vaya panda de gánsters.
¿Tú eres consciente de que puede caer todo el mundo?
Soy consciente de millones de cosas que eres incapaz de imaginar.
Alors au début du film, le personnage principal, Manuel López Vidal, est appelé à prendre des responsabilités nationales quand il est rattrapé par la justice pour avoir trempé dans un vaste système de corruption. Les élus de son parti recevaient des pots de vin d'entreprise en contrepartie de l'attribution de marchés publics. Manuel, lui, eh bien, il refuse de servir de fusible pour protéger son parti. Il va tenter de manœuvrer avec son avocat et une journaliste pour montrer qu'il n'est qu'un maillon de cette affaire.
Il dit, je suis pas coupable, je suis pas le pire, je suis venu et c'était comme ça, je fais rien de spécial.
Voilà ce qu'en dit le réalisateur, donc Rodrigo Sorogoyen. Lui, il a donc voulu réaliser un thriller trépidant avec un personnage présent dans toutes les scènes.
Il est dans toutes les scènes. Il y a très peu de films où le protagoniste, le personnage, il est dans toutes les scènes. C'est une chose aussi, un handicap, une chose que nous, pour nous, dans le scénario, pour moi, dans la réalisation, et pour Antonio de la Torre, pour l'interpréter. Mais ces choses que, ce type de choses, pour nous, c'est les choses qui nous motivent plus et qui nous excitent. On voulait raconter tous les films seulement dans un point de vue, que c'est le point de vue de ton personnage.
Donc le spectateur, en fait, Sophie, s'attache au pas de ce personnage englué dans cette affaire, poursuivi par la justice et en même temps menacé par les cadres de son parti. C'est un peu le baron noir version espagnole.
Voilà, et puis du coup, eh bien, il y a un phénomène d'identification qui joue à plein et nous, comme spectateurs, eh bien, on se surprend évidemment à vouloir qu'il s'en sorte.
Claro, c'est. Ça, c'était l'objectif. On croyait que ça, c'était très intéressant pour un film, que c'était plus efficace pour l'émotion qu'on voulait provoquer dans le spectateur, qu'il soit surpris de ce que tu as dit, de vouloir qu'il se...
Donc on le percevait bien en entendant la bande-annonce. El Reino, c'est un thriller politique au rythme trépidant.
Oui, évidemment, on pense en le voyant à des grands films américains paranoïaques des années 70, hein, notamment par exemple Les Trois Jours du Condor, et même à certains films de Martin Scorsese. D'ailleurs, la première séquence d'El Reino rappelle un fameux plan séquence des Affranchis, donc ce grand film sur la mafia, puisque El Reino commence avec un plan du personnage principal qui fume une cigarette à l'extérieur d'un bâtiment. Il jette le mégot, entre par la porte de derrière, la caméra le suit, nous sommes dans les cuisines d'un restaurant. Il s'empare d'un plat de langoustine qu'il va déposer sur une table avant de rejoindre les convives. On comprend après que ce sont les membres de son parti politique, Rodrigo Sorogoyen.
J'ai fait pas exprès, mais j'étais totalement conscient de que uno de los nuestros, Goodfellas, il a une scène très 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 pareille, ou presque pareille, vamos. Et ça m'a amusé beaucoup, il m'a fait rigoler, et aussi j'ai compris, j'ai assumé la relation. J'ai dit, c'est génial, parce qu'ils sont mafiosos. Et ici aussi, ils sont de la mafia, ils sont politiciens, mais ils sont mafiosos. Donc, j'ai vu et j'ai compris le parallélisme comique, non? Mais pour moi, la première scène, normalement, je veux raconter tous les films dans la première scène, dans quelque façon symbolique, non? Et pour moi, je voulais raconter qu'on commence le film, l'histoire, dans un lieu plácido, tranquille, en personne qu'il est tranquille et qu'il est en train de penser dans ses choses, mais qu'il va à commencer à marcher et il jamais s'arrêtera. Et on va aller tout le temps derrière à lui.
Voilà, et l'acteur de tous les plans ou presque, c'est le génial Antonio de la Torre qui a reçu le Goya du meilleur acteur.
Vous êtes bien sur RFI, dans tous les cinémas du monde. Restez avec nous dans quelques minutes. On parlera de la miséricorde de la jungle, étalon d'or du FESPACO, le festival panafricain de Ouagadougou. On en parlera avec son réalisateur Joël Karekezi. En attendant, un peu de musique avec Flesh Love. Fanny Renard me susurre que c'est la révélation du printemps de Bourges.
I'm my own jewelry. I'm my own jewelry. You can see me from far. can see me from far. You can see me from far. Some think I'm a planet, 'cause they see me glowing in the dark. Some think I'm a northern star, a brand new one no one has ever discovered. My shining scars, my shining stars protect me from myself. My shining scars, my shining stars protect me. When I finally understood that I was the universe, I embraced myself and the others too. I'm divine. We are divine, we are the elements and our power is limitless. I'm not afraid, 'cause I'm the love. And you shouldn't be afraid, 'cause you are the love too. We are only prisoners of our mind, of our mind, of our mind. I'm the sun, I'm the light, I'm the dark, I'm the dawn. We are the sun, we are the light, we are the dawn, we are the dawn. I'm the fire burning in you, I'm the love, we are the love. I'm the fire burning in you, I'm the love, we are the love. I'm the fire.
Bienvenue dans cette deuxième partie de Tous les cinémas du monde où viennent de nous rejoindre nos deux invités, Joël Karekezi et Stéphane Bach. Bonjour.
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 Alors vous êtes tous les deux à l'affiche de La Miséricorde de la Jungle qui sera en salle, dans les salles françaises mercredi prochain. Joël Karekezi, vous en êtes le réalisateur. Stéphane Bach, l'un des deux acteurs principaux. Et donc la jungle dont il est question dans le titre, c'est la forêt congolaise où sont égarés un soldat rwandais, le sergent Xavier, qui est joué par Marc Zynga, et son aide de camp, Faustin, c'est vous,
Stéphane
Bach.
C'est moi,
c'est ça. Alors on est à la fin des années 90, au moment de ce qu'on appelle la deuxième guerre du Congo, c'est-à-dire le moment où les Rwandais sont devenus des cibles au Congo. C'est ça, Joël Karekezi?
Au fait, c'est le moment où les Rwandais allaient à la recherche des gens qui ont commis le génocide de Rwanda. Il y a eu la première guerre, la chute de Mobutu, mais comme il y avait toujours des gens qui revenaient du Congo, ils tuaient des gens au Rwanda, ils repartaient. Il y a eu cette deuxième attaque pour aller les chercher. Mais le film, il va au-delà de ça. C'est pas un film qui confronte les deux pays. C'est un film où on a ces deux personnages, mais on entre vraiment dans la psychologie de leur parcours.
Et après, on va les découvrir peu à peu, parce qu'en fait, ces deux soldats rwandais,
qui
sont tous les deux perdus dans la jungle. Alors vous, Stéphane Bach, on vous a vu dans Les Héritiers, dans Le Ciel attendra. Plus récemment, on vous a vu dans le film d'André Téchiné ou dans le film, dans la mini-série de Nicolas Sada. Vous venez nous voir pour ce rôle qui est encore plus sombre.
Plus sombre.
C'est un vrai film de survie.
C'est un vrai film de survie, mais je trouve aussi qu'il apporte un peu de luminosité, de lumière, ce personnage de Faustin, parce qu'il est, voilà, c'est un paysan qui se retrouve dans la jungle et qui n'a pas forcément à être dans la jungle, et donc voilà, qui se retrouve dans cette situation où c'est un peu le miroir du spectateur, où on serait tous un peu dans des Faustins, je pense, si on se retrouvait le lendemain comme ça, au milieu d'une guerre dont on comprend pas les tenants et les aboutissants. Et donc oui, et par sa jeunesse et par son espoir, face à un Xavier qui est peut-être, on va dire, qui est un vétéran et qui est plus désabusé et plus renfermé sur lui-même, il y a la lueur d'espoir de cette jungle. Je dirais, c'est le personnage de Faustin qui croit à beaucoup de choses.
C'est quand même un rôle très très dur.
Oui, oui.
Vous n'avez pas un peu hésité avant de De plonger dans la jungle.
Non, j'ai pas vraiment hésité parce que je voulais le relever ce challenge de faire ce film africain. J'avais envie de parler ce retour aux racines. Je suis pas rwandais, mais juste du retour à l'Afrique tout simplement, pouvoir y aller, pouvoir découvrir.
C'est la
première fois pour moi que j'étais les pieds en Afrique subsaharienne, comme on dit ici, et donc du coup pour moi c'était important de pouvoir faire partie de ce cinéma-là, de pouvoir travailler avec Joël. Je trouvais qu'il avait un scénario incroyable, je trouvais que c'était une histoire vraiment atypique. On n'a pas l'habitude, en tout cas dans les scénarios européens francophones que j'ai la chance de lire, pas l'habitude de voir ce genre d'histoire. Et là je me disais de pouvoir faire de pouvoir jouer deux soldats perdus dans cette jungle, parler de cette guerre méconnue, de cette deuxième guerre du Congo. Porter tout ça à l'écran, c'était très important pour moi.
Alors, on va écouter un extrait du film La Miséricorde de la Jungle, un film de Joël Karekezi.
C'est ta première mission.
Ma première mission.
Je vais te donner une autre mission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se lèveront, tu me réveilleras.
D'accord, monsieur. Ah, ne m'ont pas réveillé. On est perdu.
On va entrer dans la jungle.
Moi, il peut faire si froid dans ce jungle.
T'es quand même en Afrique, non?
J'ai dit comment malaria.
Je suis désolée, nous n'en avons pas.
La Miséricorde de la Jungle, un film de Joël Karekezi avec vos voix, Stéphane Bach, et la voix de Marc Zinga. Donc le film a été présenté au FESPACO, le festival panafricain de Ouagadougou. Il a gagné la plus haute récompense du festival, hein, c'était en mars dernier. L'étalon d'or de Yeninga, et puis l'acteur Marc Zinga a reçu aussi le prix de la meilleure interprétation masculine. C'est quand même particulier, j'imagine que c'est... Que votre film soit projeté en terre africaine, ça a une saveur particulière, Joël Karekezi.
Oui, pour moi, c'était nécessaire de partager cette histoire chez nous, en Afrique. C'est un film pour l'audience africaine, même si le sujet est universel, il peut toucher tout le monde partout. Et pour moi, le film être au FESPACO, c'était chaque réalisateur africain rêve de ça. Et gagner aussi ce prix, ça, c'est immense.
Ça représente quoi pour vous, ce prix?
Au fait, ça représente beaucoup parce que c'est un appui aussi au message que j'avais envie de donner. Et tous les sacrifices, les acteurs, toute l'équipe, ils ont fait pour que ce film soit fait. C'est récompensé. C'est quelque chose de grand pour moi et même pour le cinéma, que ce soit au Rwanda et toute ma génération qui essaie de se débrouiller pour faire du cinéma.
D'autant plus que cette année, c'était le Rwanda qui était le pays invité d'honneur. Et du coup, pour votre film, certains disent « Oh, il a gagné parce que c'est un film rwandais ». Il y en a d'autres qui disent « Mais non, en fait, le Rwanda ne voulait pas que le film soit présenté ». Donc, est-ce que, du coup, même s'il y a une petite controverse, on se dit qu'on a touché juste parce que votre film n'est pas forcément situable dans un parti ou dans un autre?
Oui, le film, comme je vous ai dit, c'est un film vraiment qui confronte pas nos pays, le Rwanda et le Congo. Un Congolais peut s'asseoir ici et le Rwandais, il regarde le film et après ils vont discuter. C'est pour ça même dans les choix des acteurs, il y a Marc Zinga qui est Congolais, moitié Rwandais. Il y a Stéphane Bach qui est ici, vraiment d'origine Congo-Brazza. Et ce qui était bien, c'est que lui, c'était la première fois d'arriver en Afrique. C'était le Faustin et son performance était vraiment magnifique. C'était magnifique de travailler avec lui. Il y avait Ibrahim Ahmed, Mali. Au fait, c'est un film où tous les Africains, nous tous, on se retrouve ensemble. Tous les pays.
C'est un film panafricain, vous voulez dire, même dans la composition de l'équipe?
Oui. On avait envie de parler de cette histoire sans se confronter et livrer ce message pour nous. Et c'est un message aussi qui regarde tout le monde, comme la guerre est partout, au monde entier.
C'est pas un film qui est effectivement vu d'un point de vue présentant, par exemple, enfin, de façon manichéenne, soit les Congolais comme ceux qui commettent les exactions, ou à l'inverse, le commandant Xavier, le sergent Xavier, je ne sais pas si je donne les bons grades, lui-même, il est hanté par des exactions qu'il a commises dans le passé.
Oui, c'est un film qui nous fait voyager, mais psychiquement, lui-même, il y a tous ces démons qui, et à la fin, dans cette jungle, c'est le moment où il a besoin de cette rédemption, mais aussi penser au futur, à l'avenir de son ami Faustin, et qui représente beaucoup une jeunesse africaine.
Vous l'avez présenté, du coup, Joël Karekezi, après le FESPACO. Vous êtes allé au Rwanda pour présenter La Miséricorde de la Jungle?
Oui, on a fait une projection au Rwanda. Stéphane était là-bas, il y avait tout, mes producteurs, toute l'équipe était là-bas. La salle était pleine. Il y avait la ministre de la Culture qui était là-bas. Il y a eu des discussions après le film. Il y a, au Congo, il y a des festivals qui invitent des films. En Ouganda, on va projeter. Au Kenya, c'est un film qui est projeté partout.
Et Stéphane, donc, du coup, vous étiez à Kigali?
Oui, j'étais à Kigali il y a 2 semaines, je crois, maintenant, pour quelques jours, pour la projection. C'était une très, très belle projection. Moi, je l'appréhendais un peu parce que voilà, je me disais, je suis un Congolais qui joue un Rwandais. Qu'est-ce que le public va penser, etc. Et c'est, j'ai pas envie de dire c'est passé comme du beurre, mais ça a l'air de s'être bien passé. Il y a eu beaucoup de belles réactions. J'étais très touché par les réactions et il y avait beaucoup d'émotions autour de tout ça. C'est très bizarre parce que ce film, on l'a tourné il y a maintenant 2 ans, je crois. Donc, voilà, de revenir. D'abord, on n'a pas pu le tourner au Rwanda, d'ailleurs, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les, enfin, pas les mauvaises langues, on va dire les débats que pouvait provoquer le FESPACO, c'est que le film, on l'a pas tourné au Rwanda, on l'a tourné en Ouganda. Mais au Rwanda, on faisait des répétitions ensemble avec Joël. Et donc, voilà, de revenir après les répétitions, projeter le film, c'était très émouvant. C'était vachement bien. Vraiment.
Les assassins de nos familles. Je suis passé sur le corps des plus vulnérables. Les femmes, les enfants, les bébés, trop faibles, affamés, malades. Ne plus pouvoir distinguer l'innocent du coupable. C'est pour ça que les enfants auront toujours raison de nous détester. Et ça ne peut pas finir. Voilà ce qui me fait peur.
Voilà la voix du sergent Xavier Marc Zinga qui se confie à vous, Stéphane Bach, hein, le sergent. Vous n'êtes pas sergent.
Non, moi, je ne suis pas gradé.
Vous n'êtes pas gradé. Vous êtes honnête de camp.
Je suis un paysan qui se retrouve. Dans la jungle, donc je suis juste soldat Faustin, humblement soldat Faustin, et c'est la belle scène où Marc me raconte son passé.
Et c'est un film de survie, hein, on le disait, ce qu'on appelle un survival, mais avec une forte dimension absurde, justement pour brouiller les lignes et montrer que justement il n'y a pas d'un côté des victimes et de l'autre des bourreaux. Que tous les repères moraux, parce que cette jungle, c'est aussi le lieu où tous les repères moraux se brouillent peu à peu. C'est comme ça que vous l'avez voulu, Joël Karekezi.
Oui, cette jungle nous a permis de donner la place aussi à ces héros de la guerre, d'avoir un autre point de vue.
Les héros ne sont pas forcément des héros dans votre film.
Et comme Faustin, au début, lui, il voulait devenir comme Xavier. Et là, dans ce parcours, tu vois, à la fin, tu réalises de quel héros il faut devenir. Mm-hmm. Et là, c'est ce questionnement qu'on doit. Comme il l'a dit, on ne peut pas distinguer l'innocent du coupable. Si ça continue comme ça, c'est un cycle qui va se répéter. Et oui, c'est tout ce questionnement qui va aboutir à faire raisonner et à lui amener à faire des choix. Et tous les deux, ils ont des choix à faire. Et c'est ça, ce que le film va nous faire voyager, mais aussi découvrir cet point aimé à voir.
Vous, Stéphane Bach, vous êtes plutôt un garçon de la ville. Tourner comme ça, passer des semaines dans la jungle, c'était quoi l'ambiance du plateau?
C'était très éprouvant, je vais pas mentir, c'était très 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 éprouvant parce que le tournage, il était, comme vous pouvez le voir dans le film, le tournage était très physique. On tournait, on était, je pense, à aller facilement 2000-3000 mètres d'altitude dans la jungle ougandaise, dans la forêt ougandaise, et donc du coup tous les jours pour aller sur les locations, pour aller sur les lieux de tournage, on faisait déjà 2 heures de marche pour y arriver. Ensuite le soir, il fallait retourner dans la nuit, voilà, et se repérer pour retourner au lodge où on séjournait, etc.
Donc c'était initiatique, mais pas que pour votre personnage, quoi.
Pour moi aussi. Ça, il y a beaucoup d'amis qui me disent que ça m'a changé. Alors je sais pas si ça m'a changé pour le meilleur ou pour le pire, mais
ils ont pas dit.
En tout cas, t'as changé depuis l'Ouganda. Et non, c'était vachement physique, c'était très éreintant, et puis c'était très sérieux aussi. On va dire qu'il y avait une dimension très sérieuse sur le plateau, mais ce que je trouvais génial, c'est que l'Ougandais est un peu fêtard, et je rentrais à 20h, 21h, j'étais dans ma chambre, et j'éteignais tout, et j'attendais le lendemain, mais la nuit, je pouvais entendre toute l'équipe faire la fête jusqu'à 5h du matin, alors qu'on devait se lever à 6h pour aller dans la jungle. Et à 6h, tout le monde avait une heure de sommeil dans le cerveau, mais tout le monde était prêt à aller sur le plateau. Je trouvais ça hyper impressionnant. Mais c'était vraiment, vraiment beau tournage.
Parce que c'est très physique. On voit votre personnage Faustin qui est censé marcher pendant des kilomètres en portant le sergent Xavier, donc Marc Zynga, sur les épaules. Donc vous avez aussi marché comme
ça. J'ai souffert et il m'aidait pas du tout. Je dois le dire. Marc laissait tout son poids sur moi. Il n'essayait pas d'être plus léger. Il est très costaud en plus. Il est très costaud. Ça se voit pas comme ça, mais il est très costaud.
Parce que vous le sauvez. Il faut le dire, on va pas trop spoiler. Non, mais on est au milieu de la jungle et forcément, en tant que spectateur, on a aussi en souvenir. Je ne sais pas si vous avez joué avec ça, Joël Karekezi, et si vous y avez pensé, vous, Stéphane Bach, mais on a en tête des films qui se passent dans la jungle et des films de guerre, notamment Apocalypse Now, des films de guerre de Vietnam. Est-ce que ça rentre? Est-ce que vous jouez avec ce...
Et le tournage, il avait aussi un côté Apocalypse Now, un peu. C'était très compliqué. C'était pas un tournage, vraiment, pour le coup, c'était pas un tournage évident. C'est un film qu'on a fait, dans une très petite économie. On l'a fait tous, je pense, plus pour les raisons du cœur que certains, on va dire. Il y a des films qui se font plus pour des raisons financières ou etc. Mais nous, on avait juste vraiment l'envie de faire ce projet avec Joël et de porter cette histoire à l'écran, de la voir exister. On est très content de la réception du film, mais c'était un tournage où c'était très épuisant, c'était très dur, c'était vraiment très dur.
Sophie parlait des références du film Joël Karekezi. Pour vous aussi, c'était un peu initiatique, j'imagine, ce tournage dans la jungle.
Oui, pour des références, il y a un film que j'aime beaucoup comme La Ligne Rouge de Terrence Malick.
Oui.
Et là, comme j'avais envie que cette jungle soit vivante, et même pour l'audience, quand ils voyagent avec nos personnages. Et comme Stéphane vous dit, c'était pas facile, c'était physique, c'était... Et en fait, psychiquement, c'est fatigant. Mais ce qui était bien chaque jour, comme chacun avait envie de raconter cette histoire, il y avait cette énergie. Le matin, tout le monde était prêt à se sacrifier encore.
Et cette histoire de deux soldats perdus dans la jungle, puisque ils ont perdu leur bataillon et ils se retrouvent dans les lignes ennemies, on va dire, en tout cas risquant de se faire prendre par leurs adversaires. Cette histoire, on vous l'avait racontée ou c'est vous qui l'avez imaginée pour effectivement partir vers quelque chose de peut-être de plus métaphysique? C'était pas un film de guerre à proprement parler.
Au fait, comme je faisais des recherches pour mon prochain film, j'avais envie de faire un film sur le Congo. C'est une longue histoire. J'ai rencontré mon cousin, c'est lui qui m'a raconté son histoire, comment il s'était perdu avec son ami 6 mois dans la jungle. Et là, moi, quand j'ai senti ça, quand j'ai écouté cette histoire, ça m'a parlé beaucoup. Mais j'ai dû écrire l'histoire, mais aller au-delà de la réalité de l'histoire. Parce que j'avais envie que ce soit vraiment une histoire qui va au-delà des confrontations, qui traite les psychiques, mais aussi, je dirais, un pénètre pour que ce soit universel, pour que je puisse ramener ce côté qui ne glorifie pas la guerre comme dans La Ligne Rouge.
Mais justement, Joël Karekezi, j'étais un peu surprise parce que dans le scénario, vous écrivez une guerre floue.
Oui, c'est flou.
Vous n'avez pas eu la crainte que peut-être ce soit choquant pour les gens qui ont vécu cette guerre, parce que les lignes étaient quand même assez tranchées.
Au fait, là-bas, c'est très, je dirais que c'est flou, parce que, par exemple, cette guerre, il y avait plus de 14 pays, indirectement ou directement, et aussi l'Europe et l'Amérique, et il y a beaucoup de milices, vraiment c'est flou, et chaque... n'importe quand, ça peut...
Il y a des changements d'alliance, oui. Tout ça pour mettre la main sur des richesses minières.
Ah oui, c'est ça, c'est, comme c'est un pays très riche, c'est un pays très magnifique, tu vois, c'est tout le monde entier, il a besoin de mettre la main dessus, contrôler, et là c'est flou de tous les côtés, que ce soit politique, mais aussi là-bas. Mais ce qui est nécessaire, c'est, moi j'avais envie de ramener ce côté flou, et qui le fait aussi universel, comme c'est la réalité. Et ça va parler à tout le monde. Et là, tout le monde qui regarde, il voit que c'est beaucoup qui sont concernés. C'est pas seulement nous, c'est le monde entier.
En 2009, vous aviez fait un film qui s'appelait un court-métrage, qui avait été présenté au FESPACO, qui s'appelle le Pardon, donc sur la réconciliation. Est-ce que le pardon, dans le Rwanda d'aujourd'hui, ça reste... Un accomplissement, c'est un accomplissement ou ça reste un idéal?
Oui, j'ai fait ce film, il était court-métrage et puis j'ai fait un long-métrage du même sujet qui est sorti en 2013, il était au FESPACO. Et moi, c'est le questionnement, moi aussi je me posais, je me disais si je savais celui qui a tué mon père, est-ce que je pourrais lui pardonner? Mais à la fin, j'ai réalisé que c'est un devoir. Pour faire avancer notre société, il y a des sacrifices à faire, que ce soit du côté des rescapés du génocide contre les Tutsis, mais aussi les génocidaires, pour qu'on puisse bâtir notre pays, il y a des sacrifices. J'ai un documentaire qui sort sur télé en avril.
Sur une chaîne rwandaise?
Ça sort, c'est toute histoire ici en France, mais peut-être ça va sortir là-bas. Mais c'est là où je fais, c'est des portraits des gens qui se sont pardonnés. Et là, ça te fait voyager dans l'air. C'est un questionnement, mais tu réalises que vraiment, pour le bien de la prochaine génération, il faut pardonner, il faut avancer.
Le génocide dont vos parents étaient victimes, Joël Karekezi, ça reste un peu, on a l'impression que ça reste un peu l'alpha et l'oméga du cinéma au Rwanda.
Non, à ce moment, ça va au-delà. On commence. Il y a eu beaucoup de films faits sur le génocide contre les Tutsis, que ce soit américain, européen. Il y a eu nous aussi, les Rwandais, qui ont commencé à faire des films sur ce sujet. Parce que aussi c'est notre devoir de raconter nos histoires. Mais en ce moment aussi, il y a la génération qui commence aussi à faire d'autres sujets. Il y a beaucoup de courts-métrages qui sont primés partout, mais qui sont faits à d'autres sujets en ce moment.
Ça pourrait être un sujet d'un de vos prochains films?
oui, dans mes prochains films, en ce moment, je suis en écriture, mais toujours je dois suivre mon cœur, voir si peut-être je vais retravailler encore sur ce sujet, mais d'un autre point de vue.
Vous sentez une responsabilité? Vous disiez tout à l'heure que La Miséricorde de la Jungle, par exemple, avait provoqué un vrai débat quand il avait été projeté à Kigali.
Oui, au fait, c'est un film qui crée beaucoup de débats. Là où on le projette partout en France, en ce moment, dans les avant-premières, on discute à la fin, on parle, et ça fait du bien. Et pour moi, comme je disais, nous, on a un devoir de faire que notre audience puisse réfléchir. Il faut essayer de les raisonner. Et pour moi, je pense faire du cinéma, ça doit servir aussi à ça. Et je dois raconter des histoires qui font résonner mon audience.
Stéphane Bach, vous disiez tout à l'heure que quand vous êtes allé à Kigali, ce que vous craigniez, c'est qu'on vous fasse des reproches sur le fait que vous interprétiez un Rwandais, alors que vous ne l'êtes pas. Vous avez grandi en banlieue parisienne, vous êtes né même en banlieue parisienne. Comment vous avez fait justement pour travailler? Vous avez dû travailler sur la langue, sur la façon de parler, sur la gestuelle aussi?
On a principalement travaillé, on va dire, sur l'accent et pas la langue, parce que le film il est en langue française. Il y a quelques passages de Swahili, mais le film est en langue française. Je sais pas si je peux dire ça, mais on va dire que j'ai eu un très petit temps de préparation pour tout ce qui concernait l'accent. L'accent rwandais. J'ai pas eu la chance d'avoir un coach, mais j'ai travaillé grâce à des documents que Joël m'avait envoyés. Et je me suis renseigné, j'ai regardé pas mal de choses, des émissions rwandaises, etc. J'ai pu passer un peu de temps au Rwanda avant d'aller tourner en Ouganda pour pouvoir voir tout ça de très près. Mais non, écoutez, il n'y a pas eu de reproche au Rwanda. Il y a peut-être une question pour Joël. Je me souviens qu'il y avait un monsieur qui demandait pourquoi il avait pris les acteurs congolais à la place d'acteurs rwandais. Mais sinon, non, il n'y avait pas de... Je ne pense pas qu'il y avait... Personne ne semblait offusqué par ce qu'on a fait.
Et ça vous donne envie de retravailler en Afrique avec des acteurs africains? Peut-être Joël, je ne sais pas. Je ne veux pas non plus influencer.
Totalement. Moi, j'en rêverais. J'adore. J'adore être en Afrique. Donc, je trouve que même... on le voit dans un projet comme celui de Joël, il y a une originalité, il y a une force qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et ça paye pour Joël. Je trouve que c'est beau, parce que le film, il a pu, de ma très petite carrière, toute petite jeune carrière, j'ai pas eu la chance de voyager avec d'autres films comme j'ai pu avec celui-là. Le film, il a vraiment fait je pense au Festival de Toronto, de Chicago, de Namur, le FESPACO. Le film a vraiment fait le tour du monde. Donc, on a été très chanceux avec ce film. Et si je peux faire d'autres films africains, si Alain Gomis écoute l'émission, je suis disponible. Monsieur Sissoko. Enfin,
On
passera le message.
La miséricorde de la jungle. Donc, un film, vous le disiez, Stéphane Bach, qui a fait le tour du monde, qui atterrit en France, à Paris, entre autres.
Le 24 avril.
Le 24 avril, mercredi prochain. Merci Stéphane Bach.
Merci à vous.
Merci Joël Karekezi.
Merci beaucoup.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Lequéré. À la réalisation, Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma, avec une émission spéciale consacrée à Charlie Chaplin à l'occasion du 130e anniversaire de sa naissance.
Tous les cinémas du monde. Vous avez raté la séance? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.